l'urbanocène. Effectivement, j'ai plus l'impression qu'on vit dans les métropoles, les mégalopoles. Je pense effectivement qu'on est complètement happé par ce côté urbain qui prend le pas.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zoom Zoom Zen. Chaque après-midi, 2 heures pour décrypter notre époque à travers ses mots, ses concepts et ses visions, parfois diamétralement opposées. Ainsi, il y a quelques jours de ça, notre invité, un géographe, nous expliquait que le modèle de la ville qui domine nos civilisations depuis 3000 ans touchait à sa fin. Que l'urbanisation ayant atteint ses limites, les humains allaient peu à peu quitter les villes pour réinventer le vivre ensemble à la campagne, dans la nature, au sein d'éco-villages respectueux du vivant où ils produiraient eux-mêmes leur nourriture et pour le reste se fournirait en circuit court. En régie, notre réalisateur décroissant, Ghislain Fontana, avait pleuré de joie. En studio, Manon Mariani avait vomi. Deux visions irréconciliables d'un futur pourtant incertain, puisqu'aujourd'hui, nous recevons un autre spécialiste, porteur d'une vision radicalement opposée, puisque selon lui, le modèle de la ville est loin d'avoir dit son dernier mot. Pour lui, comme pour de nombreux autres spécialistes, nous sommes même sortis de l'ère de l'anthropocène pour entrer dans celle de l'urbanocène. Un monde non plus façonné par l'homme, mais bien par la ville. La ville qui grandit encore partout sur la planète. Un chiffre illustre sa puissance. En 2050, 75% des terriens vivront en ville. Alors, sommes-nous néanmoins à un tournant, sachant que le modèle de la ville n'est pas tenable à long terme? Un reflux du tout urbain est-il proche? Dans 20 ans, qui aura eu raison? Manon, qui aurait été obligée d'installer un purificateur d'air dans son 75 mètres carrés du 12e arrondissement, sous peine de décéder d'une crise d'asthme à seulement 54 ans? Ou bien Ghislain Fontana, qui règnera certes sur un cheptel de 3000 chèvres et se fera appeler Birkenstock Ier par ses 1300 disciples sur une colline du Larzac, mais aura dû installer un mur anti-bruit pour supporter le passage de l'A78 à 30 mètres de ses tiny house. Zoom Zoom Zen spécial urbanocène, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Et bonjour Michel Lussault.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Michel, vous êtes géographe, professeur à l'École Normale Supérieure de Lyon, directeur de l'École Urbaine de Lyon. Votre spécialité, c'est la géographie urbaine. Et vous venez de sortir Cohabitons pour une nouvelle urbanité terrestre aux éditions du Seuil. Alors avec vous, on va tout comprendre à l'ère de l'urbanocène. Juste le temps de vous présenter deux citadins qui ne voient pas du tout en quoi la ville pose problème. Manon Mariani, Quentin Louis, bonjour.
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 Bonjour à tous.
Manon, vous adorez la ville. Vous pourriez vivre dans un éco-village?
Non, pas pour le moment.
Je vous ai senti pas très séduite l'autre jour.
Non, je préfère le purificateur d'air au Larzac.
Ah, d'accord. Ah, pour le moment?
Oui. Après, quand je serai âgée, à 60 ans, on verra.
Ah, d'accord.
Dans 25 ans, quoi.
Vous situez la vieillesse à 60 ans. Je vous rappelle que Cyril va bientôt basculer.
C'est l'âge de mes parents, c'est pour ça, je les embrasse.
La personne à suivre, Manon.
Un architecte italien qui fait ce qu'on appelle de l'architecture verte. Sa spécialité, faire des forêts dans des barres d'immeubles. C'est impressionnant et écologique.
Quentin, lui, chaque après-midi, vous partez à la rencontre des passants pour les faire réagir à notre thème du jour.
Et je me suis mis au cœur de Paris pour parler de l'ère dans laquelle nous serions rentrés. C'est passionnant. Peut-on faire sans la ville? Je vous ai posé la question dans ce micro-trottoir complètement à la rue.
Vers 16h30, nous partirons à la découverte des fleurons de l'urbanocène, à savoir les villes les moins vivables au monde. Et même si Manon répond 10 fois de suite... Angers ! Et que Quentin, qui en cette fin d'année n'a plus toutes ses frites dans le même cornet, puisqu'il a quand même répondu l'autre jour
Thomas Pesquet
sur un quiz sur des personnages de dessins animés, je serai là pour que ce Zoom Zoom Test vous apporte de vraies informations. Juste avant 17h, nous serons rejoints par Marine Leonardi, mais d'abord, Michel Lussault, pourquoi est-ce que le moment vous semble important de parler d'urbanocène plutôt que d'anthropocène? Qu'est-ce que ça change vraiment d'utiliser ce terme?
Bien parce que ce qui a commencé à être observé à partir des années 1950, c'est-à-dire un processus d'urbanisation d'une ampleur sans comparaison avec ce qui s'était passé auparavant et qui dure jusqu'à nos jours, qui fait que depuis 70 ans, on vient de connaître le processus historique le plus incroyable qu'on ait jamais observé depuis le néolithique, eh bien nous avons une urbanisation qui est devenue planétaire. L'urbanisation a changé à la fois d'échelle et d'intensité. Là où il y avait encore en 1950 l'Europe urbanisait un peu les États-Unis, puis de vastes espaces à l'abri des villes, eh bien l'urbanisation s'est planétarisée et ce faisant, elle a complètement modifié notre planète. On pourrait même dire qu'il y a un nouveau design terrestre qui est apparu depuis une cinquantaine d'années, en particulier depuis que la Chine s'est urbanisée et que le Moyen-Orient, lui aussi, a suivi le chemin. Un nouveau design planétaire et terrestre qui fait que la Terre de 2024 n'a plus rien à voir avec la Terre de 1924. L'urbanocène, c'est ça. C'est la prise de conscience que l'urbanisation a complètement bouleversé la planète et donc bouleverser nos existences.
Avec un retour en arrière possible ? On va en parler pendant cette émission, mais...
Non, je pense qu'on ne peut pas parler en termes de retour en arrière. Je vois à qui vous faites allusion, mais je pense qu'on ne peut pas le faire parce qu'il y a déjà plus de la moitié de la population du globe qui vit dans les villes, plus de 58-60%, bientôt, vous l'avez dit, 75%, c'est-à-dire des milliards d'individus. Je pense plutôt qu'il faudrait réfléchir à une autre urbanisation, une alter-urbanisation, c'est-à-dire les villes d'aujourd'hui sont sans doute insoutenables, mais croire qu'on pourra régler le problème en s'enfuyant à l'extérieur, ça ne ferait à mon sens que déplacer la difficulté.
Je citais tout à l'heure Quentin lui, mais pour lui aussi, la fin d'année est difficile. Sa mémoire est si défaillante que dans l'équipe, certains commencent à se demander si c'est vraiment dans la cinquantaine qu'il va entrer en février prochain et pas plutôt directement dans la soixantaine. Ainsi, jeudi dernier, alors que l'expression « diplomatie féministe » était employée par notre invité, je demandais à Cyril en régie de me redonner la date exacte de notre émission sur la diplomatie féministe afin de le signaler aux auditeurs qui souhaiteraient la réécouter en podcast. Et là, cette réponse en régie « Ah ah, tu perds la boule Noël, on n'a jamais fait d'émission sur la diplomatie féministe !» Ah bon, Cyril ? Vraiment ?
Aujourd'hui, Cyril, un DCS édition spéciale, les grandes dates de la lutte pour l'égalité femmes-hommes.
2014, c'est en Suède qu'apparaît le concept de diplomatie féministe.
Pauvre vieux. Comme disait Renaud, le temps est assassin. Bonjour Cyril de la Carrière.
Bon, Mathieu, ce qui est fou, c'est que vous ne vous souvenez pas des émissions qu'on a fait hier.
Non, mais alors celle-ci, j'ai la mémoire à long terme.
Celle-ci, ouais.
C'est la seule mémoire, c'est la seule mémoire qui me reste.
155 émissions.
Ça fait beaucoup. Cyril,
on oublie une de temps en temps.
Dites-nous, avant d'oublier immédiatement après, l'urbanocène, d'où ça sort ?
Eh bien, c'est un physicien britannique que nous devons notre notion du jour, son nom Jeffrey West. Jeffrey West est un ancien directeur du Santa Fe Institute. Et pourquoi je porte Santa Fe dans mon cœur ? Est-ce que je vous ai déjà raconté cette anecdote avec Eddie Mitchell ?
Oui, tu nous l'as raconté.
Non, je vous l'ai déjà raconté.
Oui, dans la station service.
Eddie Mitchell qui sera d'ailleurs bientôt dans ce studio. Il me tarde. Bref, Jeffrey West. En 2018, il suggère que nous avons changé d'air, que nous ne sommes plus à celle de l'anthropocène, mais celle de l'urbanocène, que nous ne sommes plus à l'ère des humains, mais à l'ère des villes. Et voici ce qu'il dit. Nous vivons à l'âge de l'urbanocène et le destin de nos villes est le destin de la planète. Une thèse qu'il détaille dans le livre, attention, titre à rallonge, Lois universelles de la croissance, de l'innovation, de la durabilité et du rythme de la vie dans les organismes, les villes, les économies et les entreprises, ouf, ne le cherchez pas, le bouquin n'existe pas en français.
Mais il n'est pas le seul à l'époque à défendre ce changement d'air.
Effectivement, l'économiste américain Richard Florida est sur la même longueur d'onde. Florida pour qui notre plus grand défi réside désormais dans la crise urbaine actuelle. Hypothèse qui est au cœur de son titre et attention, retitre à rallonge, la nouvelle crise urbaine, comment nos villes accroissent les inégalités, aggravent la ségrégation et laissent tomber la classe moyenne et important, ce que nous pouvons faire pour y remédier. Alors, comment les villes sont-elles devenues des facteurs de crise ? Que change l'urbanocène par rapport à l'anthropocène ? La ville est-elle plus nocive que les humains, finalement ? La fin du mandat d'Anne Hidalgo changera-t-elle la donne ? Ce qu'on va voir durant une heure.
Merci Cyril. Michel Lussault, on est donc entré dans cette ère de la ville, on l'a dit, 2050. En 2050, 75% des habitants vivront en ville. Mais est-ce que ce mouvement, on imagine qu'il a connu depuis les années 50 des phases d'accélération, peut-être des phases de ralentissement. On est dans quelle phase actuellement, là, en 2024 ? Le monde s'urbanise toujours ou ça baisse un peu ?
Oui, le monde s'urbanise toujours. Et il est intéressant de noter que la réflexion sur le caractère bouleversant de l'urbanisation planétaire vient de la France et date des années 60-70. En fait, c'est le penseur français, le philosophe français Henri Lefebvre, qui en 1970 publie un livre aux éditions Gallimard qui s'appelle « La révolution urbaine ». Et dans ce livre, il dit « Cette révolution urbaine, elle va changer toutes les sociétés. Toutes les sociétés mondiales vont devenir urbaines. C'est aujourd'hui virtuel, écrit-il. Demain, ça sera généralisé. » Pourquoi dit-il ça ? Parce qu'il comprend que l'urbanisation n'est pas simplement un mouvement démographique qui continuerait l'urbanisation du 19e siècle en Europe. Il comprend que l'urbanisation, c'est un bouleversement des manières de vivre. Des manières de vivre, des manières de produire, des manières de s'organiser, des manières de faire de la politique, des manières de se cultiver, des manières de s'alimenter. Il est le premier à le comprendre. Et son intuition est absolument géniale, puisque à l'époque, 1970, on est encore loin des grands mouvements qu'on va connaître dans la décennie qui suit. Le premier grand mouvement de rupture, c'est 1980, les années 80. Pourquoi ? Parce que, en raison de la politique du président chinois de l'époque, Deng Xiaoping, on ouvre de nouvelles zones économiques spéciales sur le littoral chinois qui vont toutes être des zones urbaines, qui vont devenir les plateformes urbaines et industrielles de la Chine, donc les plateformes de production du système économique globalisé. Et l'urbanisation chinoise s'enclenche en 25 ans. Cette urbanisation va... faire que ce pays massivement rural, de plus d'un milliard, 100 millions à l'époque d'habitants, va devenir massivement urbain. On n'avait jamais connu un mouvement si fort et si puissant. Et dans la suite de ce mouvement, en quelque sorte, ce mouvement va emballer l'ensemble du processus. On va voir l'Asie se développer, le Moyen-Orient se développer, l'Amérique latine était déjà bien enclenchée, l'Afrique, elle, est aujourd'hui le centre de gravité du processus urbain. Donc nous sommes encore dans la phase d'urbanisation planétaire. Elle est loin d'être terminée.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël, sur France Inter.
Ce n'est plus l'homme qui abîme le monde, mais le monstre qu'il a créé, la ville. Et si nous étions entrés dans l'ère de l'urbanocène, zoom sur cette notion avec le géographe Michel Lusseau. Michel, est-ce que l'urbanisation, c'est un phénomène planétaire ou bien il y a des régions dans le monde qui résistent à l'urbanisation?
Non, on peut dire que c'est un phénomène planétaire. Il y a même un géographe, un spécialiste d'études urbaines de l'Université de Chicago qui s'appelle Neil Brenner, qui a forgé le concept de planetary urbanization, donc pour insister sur le fait que plus aucun espace n'était en quelque sorte véritablement en dehors de ce processus d'englobement. Et il faut bien réfléchir à quelque chose qui est un peu déroutant. Même si l'on est dans des zones où apparemment le paysage n'est pas urbanisé, on peut en réalité être au contact des fonctionnements du système urbain. Prenons un exemple. Si vous êtes dans une plantation de palmiers à huile dans la forêt indonésienne ou dans une plantation de soja aux marges de l'Amazonie en situation de défrichement, vous pouvez avoir l'impression que vous n'êtes pas en ville. Mais cet espace agricole qui se met en place, il est complètement lié aux exigences des marchés urbains. De même, nous sommes tous peu ou prou aujourd'hui porteurs de moyens de télécommunication, smartphones, ordinateurs. Donc même si l'on est au fin fond du Cantal, je n'ai rien contre le Cantal, c'est une région tout à fait estimable, il suffit qu'on utilise son téléphone ou qu'on commande un objet sur une plateforme de e-commerce pour qu'on soit en fait connecté au monde urbain. Donc si on pense l'urbanisation comme un système monde, un système d'échelle planétaire, eh bien très sincèrement, il est difficile de trouver des situations où l'on se trouve à l'écart. Par exemple, sommes-nous quelque part à l'écart du plastique? Sommes-nous quelque part à l'écart de la consommation de combustibles fossiles? Sommes-nous à l'écart du monde télécommunicationnel? Évidemment non. Sommes-nous à l'écart de l'agro-industrie? Évidemment non. Donc, vous voyez, si l'on raisonne comme ça, la planète est véritablement authentiquement urbanisée comme elle ne l'a jamais été, et ça va encore durer une quinzaine ou une vingtaine d'années.
Et alors ça, c'est la définition large de l'urbanisation. Dans la définition stricte de l'urbanisation, vous nous disiez en antenne quelque chose d'intéressant, auquel on ne pense pas forcément, c'est que la prochaine zone qui va s'urbaniser, c'est l'Afrique.
Oui, on peut montrer qu'il y a eu une géographie des centres de gravité, en quelque sorte, de l'urbanisation. L'Europe, tout d'abord, pendant la révolution industrielle du 19e siècle, puis ensuite les États-Unis, partie l'Amérique latine, puis ça se déplace vers la Chine entre 1980 et aujourd'hui, et l'Asie plus généralement, avec des taux de croissance qui sont absolument colossaux. Ça reste très fort en Inde, qui est un des pays où l'urbanisation est la plus spectaculaire. Et aujourd'hui, c'est l'Afrique qui devient, dans toutes ces zones, le centre de gravité de l'urbanisation, en sachant qu'il y a encore beaucoup de réservoirs de populations qui ne sont pas aujourd'hui urbanisées. Donc l'Afrique va être le centre de gravité dans les 25 prochaines années du processus d'urbanisation planétaire.
Et justement, vous parlez d'une crise de l'habitabilité. Il s'agit de quoi? C'est quoi cette crise?
Eh bien, il s'agit de constater que cette urbanisation d'échelle planétaire, c'est notre milieu de vie, certes, mais on peut se demander si elle est véritablement soutenable. Soutenable économiquement. Nous l'avons vu d'ailleurs au moment de la pandémie, on s'aperçoit que finalement ce système économique, il est beaucoup plus fragile qu'on ne le croit. On invoque toujours la nécessité de produire plus, d'aller vers plus de croissance, mais on s'aperçoit aussi que pour produire plus, pour aller vers plus de croissance, il faut toujours extraire plus de ressources du sol et que nous dépassons toutes les limites planétaires. Nous ne sommes plus robustes, comme disait un vos précédents invités.
Je vois que Michel vous écoutez, zoom zoom voilà. Zen, c'est très bien.
Mon camarade de Lyon, Olivier Hamant. Mais il y a également une soutenabilité sociale. La pauvreté est massive à l'échelle planétaire. Des milliards de personnes sont pauvres, plus ou moins. Il y a des milliards de personnes qui ne sont pas susceptibles d'accéder aux toilettes, d'accéder à l'eau courante. Et puis cette insoutenabilité, elle est également écologique. On s'aperçoit bien que finalement, l'impact des activités urbaines sur la planète, eh bien ce sont ces impacts-là qui sont sans doute responsables du réchauffement climatique, de la crise de la biodiversité, de l'épuisement des ressources, etc., etc. La crise de l'habitabilité, c'est la convergence de ces trois insoutenabilités-là.
Mais oui, mais vous dites qu'il y a une solution
dans la ville. La ville doit changer. L'autre jour, on recevait un collègue à vous, Guillaume Faburel, qui disait que non, il fallait tous qu'on reparte dans des villages, qu'on redevienne des ruraux. C'est pas possible pour vous.
Non, dans le livre Cohabitons, j'essaye d'abord de faire le constat de cette insoutenabilité dont nous nous parlons, et ensuite j'essaye de faire des propositions. Et la nouvelle urbanité planétaire que j'invoque, c'est quelque chose d'assez simple, c'est de dire ce milieu urbain dans lequel nous vivons tous et toutes, on ne peut pas le congédier d'un coup de baguette magique. Même si nous adorons la campagne, alors peut-être pas tout le monde dans ce studio, si nous sommes prêts à respirer l'air pur du Larzac, eh bien, même si nous voulions en sortir, ce n'est pas parce que nous le voudrions que nous le pourrions. Donc il faut plutôt se dire comment changer ce système urbain, comment le rendre plus soutenable et comment le rendre aussi socialement plus juste, plus confortable. Bref, il y a du boulot.
On va en parler dans la suite de l'émission. Face à vous, Michel, il est bien souvent à la peine, voire complètement à la ramasse dans l'épreuve du Zoom Zoom Test, son cerveau n'étant pas adapté au principe du quiz. Il est ainsi probable que tout à l'heure, lorsque je poserai la question « Quelle ville célèbre porte le nom de son fondateur ?» il réponde
« Thomas Pesquet ?»
alors que la réponse sera « Stalingrad ». Mais en revanche, il est extrêmement doué pour aller à la rencontre des passants et les interroger sur notre notion du jour, comme on l'a encore vu vendredi dernier sur la notion de robustesse, où il n'avait pas du tout tapé à côté. Vous aviez vous-même écouté ce quiz. Quentin, aujourd'hui, Urbanos Seine, c'est plus facile. Place de la République à Paris.
Oui, un retour en fanfare dans le micro-trottoir Land qui est la place de la République. Mais quel lieu plus symbolique que l'Urbanocène pour cette place, justement, pour parler avec vous le trafic vélo, voiture, bus, taxi, VTC, scooter, les gens qui courent dans tous les sens. Et moi, je suis là, planté avec le micro France Inter, je discute avec Jean-Baptiste.
L'Urbanocène, effectivement, j'ai plus l'impression qu'on vit dans les métropoles, les mégalopoles. Je pense effectivement qu'on est complètement happé par ce côté urbain qui prend le pas.
Peut-on faire sans la ville ? Jean-Baptiste est né à Paris et finalement ça lui va.
Je suis plutôt moi pour une densité comme Paris qui est une très grosse densité de population, mais ça laisse justement des espaces de nature qui sont complètement, qui sont pas touchés. Je sais pas, vous avez le Massif Central, les Alpes, vous avez des endroits où c'est quasiment désert. La main de l'homme, elle n'a pas mis complètement la main sur cette nature-là.
Alors, doit-on conserver des mégalopoles denses pour ne pas empiéter partout et laisser des bouts de nous un peu partout sur la planète ? Florence a mis son bonnet rose assorti à son manteau, on dirait une professeure de Poudlard. Elle traverse le boulevard Magenta et fronce les sourcils en découvrant...
L'urbanocène. Ça veut dire quoi ? L'âge de l'urbanisme ? Oui, l'ère des villes. Bon... Faut quand même pas pousser mémé dans les orties, hein, comme on dit, à la campagne. Mais enfin, les grandes villes, il y en a tout plein dans l'Antiquité, hein. Dans les civilisations anciennes. Mexico, par exemple, c'était une grande ville. C'est un grand carrefour de population.
Je lui parle de l'ambiance urbaine, de l'atmosphère des villes.
C'est épouvantable. Et puis, il y a une misère en ce moment. Il y a plein de mendiants. À tous les carrefours, vous trouvez des mains tendues et des gens qui sont dans la rue.
Et c'est vrai qu'elle est visible, cette misère sociale. Elle fait malheureusement partie du décor urbain qu'il faudrait solutionner. Emmanuel Macron avait promis, hein, qu'en juillet 2017, qu'il n'y aurait plus de SDF avant la fin de son mandat. Nous sommes en décembre 2024. Force est de constater que ça a échoué. Frédéric a 53 ans. Il est intermittent. Je pose cette question, l'avenir est-il à la ville ?
Bonne question. Non, personnellement, je suis plutôt village. Plus vieilli, plus je redeviens hameau, village. Donc,
quel village ?
En l'occurrence, Normandie. Bah, je ne serai pas tout seul, puisqu'il y en aura plein comme moi qui ont vieilli et supporté quelques décennies de ville, qui justement retrouveront le plaisir du village et donc de se retrouver entre êtres humains, entre guillemets, civilisés, courtois. Voilà.
Vous ferez partie des néo-ruraux, bobos à aller en Normandie.
Pourquoi bobo ? Non, pas bobo. Quand je vais en Normandie, j'ai ma pelle, je fais des trous, je plante des arbres, je m'occupe du jardin. Non, j'ai pas l'impression de...
Et bon, venez à Paris après.
Et je travaillais, intermittent, voilà. Petit village, pas beaucoup de tournage.
Creuser des trous avec une pelle, c'est un peu bobo. Ce jeune écoute notre conversation, il vient de Cherbourg. Que pense-t-il de l'Urbanocène ?
C'est inquiétant. Les ressources viennent pas forcément de la ville.
Ça voudrait dire qu'il faudrait qu'on change les villes. Pour que les ressources viennent des villes.
Ouais, après, c'est pas adapté, donc le terroir est pas dans le béton, donc...
Bah oui, d'où peut-être ces opérations de dépavage des villes que l'on commence à voir émerger pour faire respirer la rue. Ma dernière rencontre, c'est lui, long manteau vert, écharpe à carreaux, il est tout stressé.
Bonjour monsieur.
Bonjour, quel est votre prénom ?
Marc.
Marc, vous avez quel âge ?
J'ai 33 ans, excusez-moi, je suis fatigué.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis doctorant en histoire. L'urbanocène. Alors, ce que j'en pense...
Est-ce que j'ai piégé l'historien ? Est-ce que vous savez ce que c'est ?
Alors, je ne sais... C'est la première fois que je vois le mot.
Je lui expose alors les travaux de notre invité Michel Lussault, géographe, qui propose de repenser les villes aujourd'hui vulnérables et de soigner les liens entre les vivants humains et non humains.
Et c'est intéressant qu'on passe d'anthropocène à urbanocène, c'est parce que ça invite pas à avoir des visions apocalyptiques ou du genre un peu négatif, du genre « ouais, ça c'est la ville, c'est ce qui est mauvais », et un retour à la ruralité qui m'a l'air en effet illusoire. Tout ce que la ville peut apporter pour un nouveau rapport au vivant, à l'humain et notamment à la production alimentaire qui, moi je pense, est quand même fondamental dans un monde en crise écologique, bah, soyons des urbains et des ruraux augmentés par cette interconnectivité. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.
Je lui dis qu'en 2050, 75% de l'humanité vivra en ville et qu'à l'heure actuelle, en cas de crise, Paris ne disposerait que de 3 à 7 jours de réserve alimentaire.
C'est effrayant ce que vous me donnez comme chiffre. Ça montre bien que, ouais, que si on 70% de l'humanité doit être urbaine, il y a quand même un rapport au monde qu'il faut continuer à repenser. Après, très philosophiquement, je dirais reprendre le temps sur nos vies.
Et pour les autres, peut-être ?
Bien sûr, parce que les villes, historiquement, c'était des lieux justement de collectivité, des décisions politiques communes, et je pense qu'il faut revenir à ça. Aujourd'hui, les villes, c'est des lieux hyper individualisés, et les chiffres que vous me donnez sur le fait qu'on tient que 7 jours, par rapport à notre consommation, bah, c'est aussi que notre consommation, elle est hyper individualiste. Donc, voilà.
Repenser pour transformer le déjà existant en habitat performant, avant de définitivement manquer d'oxygène, bienvenue dans l'Urbanocène.
Michel Lussault, je rappelle le titre de votre livre « Cohabitons pour une nouvelle urbanité terrestre ». On vient d'entendre ce micro-trottoir. Il y a cette dame qui nous dit « La ville, elle a toujours été là ». Pas toujours, évidemment, historiquement, mais disons qu'Athènes était déjà une grande ville, Rome. L'urbanité existe depuis très longtemps, ça ne posait pas tant de problèmes avant. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui ?
Alors, l'urbanité existe depuis qu'on a des traces géographiques, des traces archéologiques, pardon. On sait que les villes commencent à apparaître il y a 10-12 000 ans, vraisemblablement. La différence, elle est de taille, quand même. En 1950, il y avait peut-être 2 mégapoles de plus de 10 millions d'habitants. New York et Tokyo. Aujourd'hui, il y en a au moins 80, entre 80 et 100. Et en 1950, il n'y avait pas 8 milliards d'habitants sur Terre comme aujourd'hui. Ce qui a changé, c'est aussi l'échelle, encore une fois. Et un géographe est sensible aux effets d'échelle. Et puis, ce qui a changé, et d'ailleurs, les personnes que vous interrogez le disent à leur manière, c'est aussi l'intensité et la complexité des milieux urbains qui se sont imposés. Les villes d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les villes d'il y a 60, 70 ou 80 ans. Les infrastructures ne sont pas les mêmes. Chacun déplore qu'il est sans cesse stressé, qu'il a un rythme de plus en plus accéléré, que les transports sont de plus en plus difficiles à assumer. Dans les relations sociales, on déplore beaucoup l'individualisme, ouais. Mais en même temps, l'individualisme, eh bien, finalement, on le cultive. Hein, on le travaille pour soi-même.
En ville, peut-être qu'on se protège aussi
parce
qu'on vit avec ses voisins, on les
bien
entend.
Sûr.
Il y a peut-être aussi quelque chose à trouver dans l'habitat.
Je pense effectivement que le problème n'est pas tellement l'urbanisation en elle-même, c'est plutôt le style d'urbanisation qui a été mis en place depuis les années 1950, qui est un style qui est en fait entièrement déterminé par ce que j'appellerais l'exigence fonctionnelle et économique. Depuis maintenant quelques décennies, et ça s'est renforcé après l'effondrement du mur en 1989 et avec l'urbanisation chinoise, eh bien finalement le développement urbain est tourné vers la satisfaction des besoins économiques. Aujourd'hui, les villes sont les plateformes de l'économie.
Au détriment des
besoins sociaux, relationnels et des aménités. Et encore une fois, nous l'avons vu au moment de la pandémie. Mmh. On s'est aperçu finalement que notre milieu de vie urbain, il était extrêmement inconfortable. Il n'était pas du tout fait pour le confort.
D'ailleurs, ceux qui pouvaient s'échapper à la campagne pour se confiner.
Bien sûr. Vivre dans des grandes métropoles, si l'on voulait plaisanter, on pourrait dire que c'est formidable à condition de ne jamais rester chez soi. D'être toujours à l'extérieur pour profiter des aménités extérieures. Donc, peut-être qu'il faudrait changer cela et puis aussi aller vers des villes qui fonctionnent plus sur la coopération, la solidarité et la sociabilité entre les individus.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Zoom aujourd'hui sur l'urbanocène, l'ère de la ville. De nombreuses mégalopoles ont atteint en ce début du XXIe siècle des dimensions inquiétantes, certaines rappelant même par leur disproportion le fameux pull blanc de Noël de Quentin Lee. Alors justement, partons à la découverte des villes les moins hospitalières du monde, jouons au Zoom Zoom Test. Et ce quiz sur les villes qui grossissent plus vite que le compte Instagram de notre émission, aidez-nous hein, d'ailleurs, c'est simple, ça s'appelle Zoom Zoom Zen tiré du 6 off. Et vraiment, vous ne serez pas déçus parce qu'on l'alimente tellement qu'il y a actuellement pas moins de 6 publications. Bref, pour ce quiz, nous allons encore une fois innover. Car vous le savez, le LSD est un carburant phénoménal pour la créativité et Gérald Darnaud, qui travaille avec moi, adore le LSD. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous propose de deviner des villes tristement réputées pour leur démesure à partir de cartes postales envoyées par les membres de Zoom Zoom Zen qui y ont séjourné.
Oula.
Vous avez compris le principe, Quentin ?
Thomas Pesquet ?
C'est parfait, on peut donc commencer. Top ! Première carte postale. Coucou les amis, je devais vous ramener du soleil. Ici, il fait 33 en moyenne. Ça sent un peu le bouc dans mon blouson Valentino Rossi, mais ça va. Cette ville est encore plus incroyable qu'Alençon, c'est dire. Et pourtant, elle n'a été fondée qu'en 1971. Elle a le même âge que Calogero, c'est fou. Et politiquement, c'est aussi super bien fait. Ils ont un ministre du bonheur.
Bah, c'est moi qui ai envoyé cette carte postale.
Oui, c'est toi, oui.
Mais
c'est parce qu'on cherche.
Il faut la ville, Quentin.
Les rues sont super safe, les policiers sont hyper détendus, ils pratiquent pas le contrôle aux faciès. En même temps, ils peuvent être heureux. Les voitures de flics sont des Lamborghini. Seul souci avec
Monaco.
Ma copine, on a été obligé de prendre deux chambres séparées
Dubaï
parce qu'on n'est pas mariés. Pas pratique pour là. Pas pratique pour là.
Bouillard.
Oh, oui. Je vous laisse, je file skier au Leclerc du coin. Bon
Dubaï.
Baiser de Dubaï. Bravo,
ah,
Manon Mariani, effectivement. Ville la plus peuplée des Émirats Arabes Unis, Dubaï est la seule ville au monde où les distributeurs de billets distribuent aussi des lingots d'or. Pratique quand vous avez oublié le vôtre à la maison. A noter que la tour Burj Khalifa, le plus haut bâtiment du monde, est deux fois plus haut que la tour Eiffel et 487 fois plus haut que Quentin, lui. Mais attention, on vient de recevoir une autre carte postale. Salut les pardon, je suis obligé de censurer, le style de Cyril de la Carrière est un peu leste. Salut les amis, dirons-nous. Vous me manquez horriblement. Et pour que vous me manquiez horriblement, il faut vraiment que je sois au bout du rouleau. Mais c'est cette ville qui me sort par les yeux.
Oula.
Ici, tout est laid. Les immeubles sont laids. Les hôtels sont laids. Les gens sont laids. Franchement, je me demande comment j'ai pu débourser un aller-retour en business. Comment j'ai pu débourser un aller-retour en business pour me retrouver dans ce bled ? Bonne réponse, effectivement. C'était Las Vegas, la ville, par définition de la démesure, oasis de n'importe quoi surgissant au milieu du désert du Nevada, réputée pour son nombre astronomique d'hôtels. Des mathématiciens disposant visiblement d'un peu de temps libre ont même calculé qu'il faudrait un individu 340 ans pour essayer toutes les chambres d'hôtels de la ville. En trois jours, Cyril n'a eu le temps que d'en essayer une et elle était moche. Mais attention.
Elle avait vu sur la Trump Tower.
Ah oui, ça c'est. Il avait bien. Bah, évidemment.
Bien choisi, évidemment.
Mais attention, le facteur vient de repasser, on a une nouvelle carte postale.
Et toujours le même disque en
fait.
Toujours le même disque, ouais. Évidemment. Mais attendez. Coucou les amis, je suis dans une ville complètement buildée. Buildée ? Ah oui, débile en Marianoche. Ah mince, le reste est effacé. Du Chablis a imbibé la carte postale, c'est dommage, on ne voit plus rien. Mais tant pis, on peut pas la lire. Le facteur en a apporté une autre. Celle-ci est très propre, elle est signée Pierre Courade. Chers frères, chères sœurs de Zoom Zoom Zen, avec l'abbé Chibrard, nous avons fait un excellent voyage. La paroisse de Bétarame n'ayant pu nous prendre qu'un billet en classe éco pour deux, j'ai dû passer le vol sur ses genoux, mais il était très confortable et sa soutane était très épaisse. Je n'ai quasiment pas senti son excitation coupable. J'espère que le Seigneur aussi a fermé les yeux. À l'arrivée, nous avons découvert une ville pleine de contrastes. Elle a été fondée par des jésuites et pourtant, des siècles plus tard, elle héberge la plus grande parade LGBTQIA+ au monde. C'est dingue. Moi qui aime sortir des sentiers battus, je pensais que ça serait moins fréquenté que Rio, mais voilà, il y a en fait deux fois plus d'habitants. On dirait Lourdes au mois d'août. Le soleil en plus. Bon baiser d'eux.
Ah, je vois pas.
Nous sommes au Brésil.
Brasilia ?
Sao Paulo ?
Sao Paulo, oui. Bonne réponse de Quentin. Avec très peu d'indices, puisque j'ai juste dit Rio,
oui.
Brésil, et qu'on avait dit Brasilia. Donc Sao Paulo, effectivement, quand on parle du Brésil, on pense
Rio. Ça fait
Rio,
un point quand même.
Mais ça fait un point. Sao Paulo,
c'est moins en déjà.
Donc. Sao Paulo, c'est 12... Non, il n'y avait pas moins en. Ne faites pas les règles.
Il n'y avait pas moins en.
Non,
mais non.
Du tout.
On avait
c'est
pas...
vous,
ah,
c'est vous qui avez moins en, pour avoir essayé de déstabiliser Quentin.
Comme d'hab.
Quand on parle Brésil, on parle de Rio, mais Sao Paulo, c'est 12 millions d'habitants et une ville qui sait aussi bien recevoir.
C'est notre secret, ça reste entre nous. Hein. Oui, non, parce que sorti de son contexte, un doigt dans les fesses, ça peut être...
Et pourtant, le père Chibrard l'avait bien dit à Coura de ne pas s'aventurer dans les favelas.
C'est vraiment...
Dernière carte postale du jour, à l'odeur, ce doux mélange de patchouli et de fromage de chèvre, c'est Ghislain Fontana. Salut les gars, c'est incroyable l'énergie cosmique de cette ville. Autant d'habitants qu'en Ouzbékistan, mais tellement d'amour. Le séjour avait pourtant mal commencé, j'ai rempli ma gourde dans la rivière et j'ai perdu 17 kilos et 2 sarouels en 48 heures. Je m'en suis sorti en allant me recueillir sur la tombe de Gandhi. Je savais que les vaches étaient sacrées, mais le masque à oxygène est important aussi. Ici, c'est plus irrespirable que les yourtes des Khatogans de Gaïa après une soirée en douillet.
New Delhi ?
New Delhi, oui, Quentin. Mais quel succès.
Bah, quel succès, oui.
Oui, bravo.
C'est ça, fait bravo.
Il y a beaucoup de villes en Inde, mais la tombe de Gandhi, bien joué. New Delhi, quelle belle destination, la plus polluée au monde, certes, mais Ghislain emporte encore toutes les effluves, et ça fait 2 mois pourtant qu'il est rentré. Namasté à tous, victoire de Quentin, lui.
Ah, merci beaucoup.
Comme quoi, il n'y a personne qui s'applaudit.
Bah, si, si, regardez, écoutez.
En régie, on l'a applaudi.
Là, on
j'ai entendu des.
Et là, on applaudit à l'antenne.
J'ai entendu des
vous
gens
avez dit ce matin, vous lui enleviez un point. Oh là là, ça m'énerve.
Ça commence à se voir maintenant.
Pour une fois que vous perdez,
eh oui,
quiz, c'est possible. Vous pouvez admettre la défaite.
Non, mais
pour une
vous
fois.
Oubliez ce que vous dites, c'est juste ça.
C'est possible aussi. Vivons-nous à l'ère de l'urbanocène. Le géographe Michel Lussault est avec nous pour zoomer sur cette domination de la ville sur nos modes de vie. La ville est souvent synonyme de pollution. On l'a encore vu dans le test. Est-ce que ça serait possible une ville vertueuse ou par définition une ville sera toujours néfaste, au moins pour l'environnement. Est-ce qu'une ville non polluante et non polluée, ça peut exister?
Alors aujourd'hui, on ne voit pas trop comment on pourrait faire. Hélas, c'est un dossier extrêmement délicat parce que les villes qui sont les plateformes de l'économie, comme je le disais tout à l'heure, sont évidemment responsables des émissions de polluants en grand nombre, des polluants qui sont de plus en plus complexes, qui se recatalysent avec l'air ou avec l'eau pour provoquer des effets de pollution qu'on n'avait pas du tout anticipés. On a même aujourd'hui ce qu'on appelle des polluants éternels, c'est-à-dire des polluants dont la durée de vie est tellement longue qu'on n'arrive même pas à savoir à quel moment ils vont disparaître. Donc il y a aujourd'hui déjà un passif de pollution qu'il faudrait déjà pouvoir traiter. Quant à envisager des villes moins consommatrices de ressources et moins polluantes, alors là, ça n'est pas que c'est impossible, mais il faut réviser l'ensemble de nos classiques en matière de production économique. Sommes-nous capables de produire avec moins de combustibles fossiles, avec moins de matériaux extraits du sol, avec moins de minerais? Sommes-nous capables d'utiliser moins les plastiques? Sommes-nous capables d'avoir une production qui produise moins de déchets? Pour produire aujourd'hui un smartphone de 500 grammes, il faut utiliser entre 70 et 80 kilos de matière. Sommes-nous capables d'être plus économes? Sommes-nous capables de mieux traiter les déchets que nous produisons? Et je ne parle pas simplement à l'échelle locale, mais aussi à l'échelle planétaire. Donc, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. C'est peut-être ça qui explique qu'il y ait des fantasmes de sortie de la ville et de retour à la nature.
La tâche est trop grande.
Oui, je pense que nous sommes extrêmement démunis devant l'ampleur de ce que nous avons à affronter.
Quentin. Justement, Paris perd des habitants. Est-ce que la métropolisation de la France avec des grandes villes régionales comme Marseille, Lille ou Toulouse, c'est un phénomène qui est bien maîtrisé pour vous? Ou est-ce qu'on étend encore la ville?
Le paradoxe de l'urbanisation planétaire, et on l'a vu dans le quiz, lorsqu'on parle urbanocène, les gens pensent grande mégapole,
oui.
Concentration,
on
agrégation.
On a vu que c'était autre chose.
Voilà.
Mais
large. En réalité, l'urbanisation planétaire, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a effectivement des grandes mégapoles qui apparaissent, mais aussi énormément de petites et moyennes villes. Et surtout, il y a la périurbanisation planétaire, c'est-à-dire l'étalement urbain partout. Donc l'urbanisation de la Terre, c'est largement une périurbanisation de la Terre. Donc partout au monde, on voit cet étalement urbain qui répond à des exigences fonctionnelles, de recherche de logement, etc., mais qui crée aussi des problèmes tout à fait inédits. Donc il faut traiter à la fois les problèmes des grands centres très concentrés, mais il faut également traiter les problèmes du périurbain et un périurbain qui parfois est très dense. Tout à l'heure, une personne interrogée parlait de sa Normandie, et bien j'ai le regret de lui dire que sa Normandie est périurbanisée dans une certaine mesure.
Mais
ne serait-ce que parce qu'il habite Paris, il y retourne régulièrement.
Mais tous ces changements, ça demande énormément d'argent. C'est quelque chose aussi, c'est une politique de riche aussi.
Ça demande du temps et de l'argent. Mais comment en sommes-nous arrivés là? Nous en sommes arrivés là parce que depuis 50 ans, encore une fois, l'économie mondiale, le système économique globalisé a fait de la ville sa plateforme de production, a fait de la ville les lieux d'organisation des marchés. La ville, c'est aussi le lieu de la consommation. Donc on y a englouti des moyens considérables. Savez-vous que le plus grand stock de richesses existant sur la planète, et de très loin, c'est la valorisation immobilière du bâti urbain mondial. Ça veut dire que 370 000 milliards de dollars sont concentrés dans la valorisation immobilière des villes. C'est 3 fois plus que la capitalisation boursière des grandes firmes dans les principales bourses mondiales. Donc,
l'urbain, c'est le lieu d'accumulation de la richesse parce que l'économie en a fait son centre névralgique. Donc pour inventer une autre urbanité, eh bien il faut d'abord peut-être réfléchir aussi à nos modes de production, donc à nos modes de consommation, donc à nos modes de vie.
Mais on en revient un peu à ce qu'on disait l'autre jour avec notre invité Guillaume Fabriol, c'est que le problème c'est le capitalisme. On voit mal comment on pourrait passer d'une logique à une autre sans inverser les valeurs mêmes du capitalisme.
En tout cas, c'est le problème de la société de consommation contemporaine. C'est pour ça que dans ce livre Cohabitons, j'essaye de proposer des pistes. Guillaume Fabriol en propose également, sauf que là où nous différons, ça n'est pas les mêmes. Je pense que ces pistes, il faut plutôt les travailler à partir des espaces urbains et pas en sortant, pour avoir des modes de vie plus soutenables. Et je crois que c'est possible. On a l'impression que ça n'est pas possible parce qu'on est dopé à l'idée, si je puis dire, que nous avons toujours vécu comme ça et qu'on ne peut pas vivre autrement. Mais il y a 50 ans, on vivait très différemment. On peut sans doute vivre très différemment.
Oui, il y a pas si longtemps, on vivait différemment, c'est vrai. Vous écoutez France Inter, il est 16h46. L'heure de découvrir, Manon, l'autre personne à suivre.
Je vous présente Stefano Boeri. Il a 68 ans, il est italien et c'est un architecte très connu pour sa vision avant-gardiste de l'urbanisme centré sur la durabilité environnementale et l'intégration de la nature dans les espaces urbains, ce que certains appellent l'architecture verte. Il s'est fait connaître pour son concept des forêts verticales, Bosco Verticale en italien, qu'il a popularisé à Milan, dont il est originaire. Il a créé deux tours résidentielles de 76 et 112 mètres, qu'il a entièrement recouvert de végétation dense. C'est assez impressionnant à voir, on dirait vraiment une forêt, mais sur un immeuble. Et ces tours incarnent totalement sa philosophie, recréer des écosystèmes naturels au cœur des villes. Pour les faire, il a intégré des milliers d'arbres et de plantes sur les balcons et les façades des bâtiments, une végétation qui absorbe du dioxyde de carbone, améliore la qualité de l'air et favorise la biodiversité. Et puis son autre gros projet, qu'il a commencé en 2016, la Forest City en Chine, une ville forêt autonome conçue pour lutter contre la pollution, construite dans une ville qui existe déjà, la ville de Liuzhou, au sud-est du pays, qui compte plus de 3 750 000 habitants. Son objectif est donc d'y ajouter une sorte de ville verte de 175 hectares qui pourra accueillir environ 30 000 habitants. Les bâtiments seront recouverts de 40 000 arbres et de près d'un million de plantes de plus de 100 espèces. Le but est le même qu'avec les forêts verticales: réduire la pollution, améliorer la qualité de l'air et favoriser la biodiversité. Liuzhou Forest City promet d'absorber 10 000 tonnes de CO2 et de produire environ 900 tonnes d'oxygène par an. Selon Stefano Boeri, sa ville devrait pouvoir fonctionner en autosuffisance. Sauf que, manifestement, c'est plus facile à dire qu'à faire. À la base, elle devait être prête pour 2020, mais elle n'est toujours pas terminée. Malgré ce retard, Stefano Boeri est considéré comme l'un des architectes actuels les plus engagés pour sauver les villes avec l'invention de ces fameuses forêts verticales. Pour lui, les architectes doivent adopter un vrai changement de paradigme aujourd'hui et repenser leurs travaux pour coexister avec la nature. Au fur et à mesure des années, il a exporté ses forêts verticales dans le monde entier, en Suisse, aux Pays-Bas, en Albanie. Il y a un projet à Shanghai et même chez nous, une forêt verticale est au programme à Villiers-sur-Marne, dans le Val-de-Marne. Mathieu, je vous préviendrai, ce sera sûrement le moment d'investir.
Bien sûr, toujours intéressant d'investir dans ce genre de projet.
L'immeuble est très joli.
Ah ben, très bien. Michel Lussault, est-ce que justement pour sauver la ville, les forêts verticales, ça fait partie des pistes intéressantes?
Ça fait partie des pistes, il y en a nombreuses. En tout cas, on sait qu'il faut reconstituer des écosystèmes urbains qui ont été très malmenés par l'urbanisation depuis 50 ans. On sait que c'est un enjeu. On voit un peu partout, ça a été évoqué tout à l'heure, des réouvertures de sol. Retrouver le sol urbain, ça n'est pas si facile que cela, parce que ce sol est très très transformé depuis des lustres. On voit qu'il y a des réflexions sur les forêts urbaines, sur la végétalisation des immeubles, sur la fin de ce qu'on appelle les canyons urbains extrêmement minéralisés. On s'intéresse aussi aux périurbains dont je parlais tout à l'heure, parce que dans ce périurbain, il y a parfois des jardins. Les jardins privés sont des ressources pour repotentialiser l'écosystème. C'est une des pistes, mais ça n'est pas suffisant en soi. Je crois qu'il faut comprendre qu'il n'y a pas de martingale, il n'y a pas de baguette magique avec une solution unique qui permettrait de tout régler. Il faut plutôt s'attacher à comprendre le milieu dans lequel on vit et voir comment nous pourrions réorienter nos manières de cohabiter. Avec peut-être, si vous me permettez, une très très courte remarque. Beaucoup de gens pensent qu'il faut aller vers des espaces autosuffisants, des communautés autonomes. Oui. Mais on se méprend là-dessus.
dessus, parce que fondamentalement, depuis toujours, l'être humain a été doté d'un avantage comparatif extrême par rapport à d'autres espèces, c'est que c'est un être de connexion et de mobilité. Aujourd'hui, nos vies contemporaines sont extrêmement connectées, elles sont multiconnectées. Donc je pense que plutôt que de réfléchir à une autarcie un peu illusoire, ne devrions pas nous pas réfléchir à d'autres manières d'entrer en relation avec les autres humains et avec les non-humains.
Zoom zoom zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Lui, il a énormément voyagé. Rio, Tokyo, New York. Il a connu le soleil brûlant et la moiteur affolante de l'Amazonie. Mais au bout du compte, s'il devait nommer une ville qui, selon lui, surpasse toutes les autres, il dirait sans hésiter Lourdes.
C'est
une
vrai.
Ville où le seul vrai miracle répertorié et scientifiquement prouvé date du 12 août 1965, où ce jour-là, il avait mystérieusement fait beau. Bonjour Pierre Courail.
Mes parents s'en souviennent, c'est vrai.
Ouais, c'est vrai.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Chaque après-midi, Pierre, vous nous résumez tout ce qu'on s'est dit en une minute chrono.
L'urbanocène, c'est l'ère de la ville. D'ici 30 ans, 75% de la population de la planète vivra dans une agglomération. Trois quarts des habitants de la Terre connaîtront alors la vie de Manon Mariani, qui se demande encore sur quel arbre poussent les briques de lait. Il va falloir s'y faire, hein, c'est ce que nous a dit le géographe Michel Lussault, notre invité, qui sort le très explicite Cohabitons, un livre dans lequel il explique que nous sommes entrés dans un processus d'urbanisation sans précédent. C'est même pour lui le processus historique le plus incroyable que nous ayons vécu. Tout a démarré dans les années 50. À partir de cette époque, l'urbanisation a changé d'échelle et d'intensité et a dessiné un nouveau design terrestre, surtout depuis que la Chine et le Moyen-Orient ont rejoint le mouvement. L'urbanisation planétaire bouleverse nos modes de vie, de nous déplacer, de consommer, de se divertir, si bien que pour notre invité, il n'y a pas de retour en arrière possible. Même les surfaces agricoles sont liées au développement urbain. Aucun endroit sur Terre n'échappe à la poussée des villes. Ceci dit, Michel Lussault estime qu'il faudra inventer une alter-urbanisation pour que ces agglomérations restent vivables. Cela passe aussi par la lutte contre l'individualisme qui provoque l'isolement. L'urbanocène doit inventer de nouvelles relations sociales, retrouver les bons côtés de la campagne en ville. C'est ça, changer d'air.
Une minute et 9 secondes, un de vos meilleurs scores. Pierre Courade, bravo. Marine Leonardi, vous êtes sentie un peu bête sur ce sujet.
Bah, disons que quand j'ai reçu le mail de Romain, notre stagiaire de 43 ans, qui m'écrit « Le prochain sujet est l'urbanocène, soit la variante urbaine de l'anthropocène. » Non mais je précise, comme c'est un peu équivoque, ça fait trois mots que je ne comprends pas dans cette phrase. Équivoque, tu peux pas dire c'est imbitable comme tout le monde. À un moment donné, moi je vous dis, je sais plus si je suis chroniqueuse radio ou si je postule à Sciences Po. Vraiment, moi j'imagine la brave mère de famille qui nous écoute en sortie d'école et qui a le choix entre l'intégrale de la sorcière Grabouilla ou la civilisation est-elle en train de devenir urbaine, alors que ce qu'elle a juste envie d'entendre c'est tu es parfaite Nathalie, tu fais tout comme il faut, moi aussi j'ai peur que mon mari se tape ma femme de ménage, mais souviens-toi Nat, ça permet de défiscaliser et de déléguer les tâches ingrates, et non, je ne parle pas de nettoyer le frigo. Pour ceux qui ont trois neurones comme moi avec le postpartum, ou juste pour les gens qui regardent trop souvent Hanouna, des géographes veulent remplacer le terme anthropocène par urbanocène. Mais quel soulagement! Non mais c'est vrai, depuis le temps qu'on le dit avec Cyril, hein, encore la dernière fois on était là, non mais les gars, on est vraiment dans une urbanocène, hein, en fait c'est évident, tu vois. Explication donc pour tous ceux qui ont une vie sexuelle active, cela signifie qu'aujourd'hui les villes sont devenues une nouvelle force géologique à mettre sur le même plan que les campagnes ou encore les océans. Donc si je comprends bien, on est tellement désespéré de transformer la Terre en poubelle qu'on se demande si la butte Montmartre serait pas le nouveau Mont Ventoux. Mais vous fumez quoi le matin, Michel Lussault? C'est de la bonne, hein? Non mais c'est pas parce que deux connards ont skié devant le Sacré-Cœur il y a deux semaines qu'il faut installer des remontées mécaniques, hein? Non mais je vous le dis, on subit la ville, on subit. Quand on est jeune, on trouve ça sympa, les boîtes de nuit, les vendeurs de vin en biodynamie avec des tabliers bleus plus propres que ma maison, hein, qui te vendent une bouteille à 17 balles qui a un goût de desktop. Donc là, on part sur une petite production exclusive de Bernard Mourillan, hein, qui travaille à Saint-Chinian dans l'arrière-pays biterrois. Après, il n'y a pas à chier, hein, vraiment, le vin pétillant, c'est vraiment un banger, quoi. Si, il y a à chier, Pierre Antoine, j'ai fini au chiottes pendant 4 jours, voilà. Ton truc, ça m'a débouché les tuyaux et buté mon verre solitaire. Donc, moi, j'ai 35 ans, deux gamines qui ne me calculent pas et un mari qui s'est mis au trail. Donc bon, on va plutôt partir sur deux caisses de Baron de l'Estac, si ça t'ennuie pas. On va aller se mettre minable avec mes copines sur du L5. Hein. La réalité, c'est qu'on ne sait plus vivre en dehors des villes. On est devenus des homo urbanus, incapables de survivre sans ascenseur et sans Uber Eats. J'ai aperçu mon mari la dernière fois regarder un tuto YouTube pour couper un ananas. Je sais pas si vous vous rendez compte, le gars, tu le laisses 2 heures en forêt, c'est fini. Un lapin pris dans les phares d'une voiture. Alors, j'entends déjà nos auditeurs de France Inter crier au parisianisme. Ouais, il n'y a pas que le Perret fait les trottinettes dans la vie, venez à Angers, vous verrez. Alors écoutez-moi bien, hein. Moi je suis une provinciale pur jus. J'ai grandi pendant 18 ans à 5 km de Metz. Donc les centres commerciaux et les samedis après Mokora, c'est bon, j'ai connu, tu vois. Je peux t'ouvrir jusqu'à 10 Pelfort avec les dents et je te récupère les capsules pour te faire un cendrier maison. Donc oui, je me sens légitime pour parler de la ville et de la campagne. Et je dois dire, hein, que moi j'aime bien la ville. C'est vrai, j'aime bien la ville et j'aime bien l'idée qu'on prenne soin de la ville. La ville, c'est un peu ton ex toxique. À chaque fois, tu dis, ça y est, je fais mes valises. Non, mais je mérite mieux que ça. Je vais le faire, mon projet de méditation végétale dans le Berry avec mes 3 copines en burn-out. Et puis, au détour d'une balade, tu contemples sa beauté, respires son parfum, tu te remémores les bons souvenirs et tu te dis, je suis encore trop jeune pour me poser. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, j'irai skier à Montmartre.
Merci Marine Léonardi. On vous retrouve lundi prochain dans Zoom Zoom et toujours en tournée dans toute la France avec votre spectacle. Mauvaise graine, toutes les dates, la billetterie pour 2025, c'est sur marineleonardi.com. Merci Michel Lussault de nous avoir initié au concept de l'urbanocène, l'ère de la ville. Je rappelle votre dernier ouvrage, Cohabitons pour une nouvelle urbanité terrestre, c'est aux éditions du Seuil.
Merci. Zoom, zoom, zen.